face à des questions difficiles de la part des plus jeunes. Je pense qu'il y a trois façons de réagir lorsqu'on pose une question difficile lorsque nous sommes dans la famille et nous avons l'autorité en tant que parents. Et pourtant, les enfants posent une question qu'on a du mal à comprendre. Trois façons différentes de répondre. Premièrement, c'est de humilier l'enfant par rapport à ce qu'il a dit. Peut-être de vouloir les humilier en disant quelque chose de genre « Mais tu te prends pour qui ?» en posant ce type de question. Est-ce que vous avez connu cela? Parce que parfois, leur question révèle notre ignorance et on se protège en se défendant avec agressivité. Peut-être simplement, nous avons tendance, et la plupart des parents vont reconnaître ceci, d'être un peu irrités par trop de questions. Arrête de poser tes questions. La deuxième possibilité. Il faut simplement juste faire ce que je dis. Okay? Troisième piste, c'est de faire semblant de ne pas avoir entendu la question et de chercher à continuer la conversation sans y revenir, en espérant qu'eux, ils vont aussi oublier et ils vont s'intéresser à d'autres choses. Quatrième, c'est de dire « bonne question, ça ». Essayons de répondre à la question. Alors, quelle est la question que les fils d'Israël posent à la fin de ce chapitre que nous avons lu? Verset 20. « Lorsque demain ton fils te demandera que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandées. » Comment est-ce qu'ils vont répondre? Je ne sais pas. Qui es-tu pour me poser cette question-là? Passe-moi l'agneau. J'ai faim. Il y a plusieurs pistes, n'est-ce pas? Mais pour le peuple d'Israël, il devait transmettre le message à la génération suivante que l'Éternel est effectivement leur Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, il pose dans la question. Et donc, la réponse, tout au long, en fait, de ce chapitre, c'est de découvrir de nouveau qui est l'Éternel. Et donc, on va revenir verset à la fin, mais notre objectif aujourd'hui, c'est de voir dans ce livre de Deutéronome à quel point Dieu nous rappelle à l'ordre par rapport à qui il est pour comprendre comment nous devons vivre avec lui et pour lui dans notre vie. Et donc, nous allons voir essentiellement deux choses. Et si vous avez le feuillet, vous pouvez voir le plan de ce que nous allons voir sur le dos de votre feuillet. Rappelons-nous juste du contexte. Moïse prêche ici à la génération, la jeune génération d'Israël, qui est sur le point d'entrer dans la terre promise. Il rappelle à Israël que leur Dieu, c'est effectivement le Seigneur, c'est l'Éternel. Et dans certaines traductions, nous avons la traduction « l'Éternel », dans d'autres traductions, c'est traduit « le Seigneur », mais c'est le même mot qui est traduit. Le Seigneur qui se révèle comme étant Yahweh, le Seigneur ou l'Éternel. Okay? Donc, si vous choisissez le Seigneur ou l'Éternel, les deux sont possibles, okay? D'après les différentes traductions. Mais qu'apprenons-nous au sujet de l'Éternel? Deux choses. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Et deuxième, l'Éternel est le Dieu qui délivre. Alors, première chose, il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Aimons-le de plus profond dans notre être. On va essayer de voir les deux choses ensemble, et puis ensuite on passe à d'autres détails dans le texte qui nous poussent à appliquer ces deux leçons dans nos vies personnelles. Premièrement donc, l'Éternel, il est le seul Dieu, aimons-le de plus profond dans notre être. Le verset 4 est super connu du point de vue de la Bible, mais du point de vue de la nation d'Israël, l'un des fondements de la foi d'Israël. C'est ce qu'on appelle le schéma qui vient de l'hébreu pour le premier mot du verset 4. Écoute. Et c'est récité, non pas deux fois, j'avais dit au premier culte, mais quelqu'un m'a corrigé, trois fois par jour par des juifs pieux, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent, verset 4? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Même si vous arriverez, ce serait le cas pour la première génération des Israélites qui entrent dans le pays, c'est encore à venir cela. Mais même si vous arriverez dans une région qui croit dans une pluralité de divinités et d'idoles, vous devez savoir que le Dieu d'Israël, il n'est pas ainsi. Il n'est pas un Dieu parmi plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Le Dieu qui est là, objectivement, c'est l'Éternel, le Seigneur, celui qui se révèle à travers ce qu'il fait. Il fait dans notre histoire. C'est lui, l'Éternel, d'après le chapitre précédent, juste avant les 10 commandements, qui a fait sortir son peuple d'Égypte, au verset 6 du chapitre 5. C'est lui qui délivre de manière plus définitive son peuple aujourd'hui de leur péché à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et tout de suite, j'aimerais que nous voyons cela répété dans le Nouveau Testament. C'était vrai pour Israël, mais c'est vrai, cette même proposition pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance. Alors là, juste à la fin, on peut passer, Kenneth, si tu veux bien, à 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait qu'il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins pour vous, ou pour nous, pardon, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui vienne toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » On revient maintenant vers le Deutéronome, verset 4. Parce que c'est à juste titre que c'est connu, ce verset. C'est le fondement de ce qui va suivre au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais cette exhortation-là d'aimer l'Éternel à fond de tout notre être, cela n'a du sens uniquement si l'Éternel seul est Dieu. Sinon, ce serait de consacrer tout notre temps inutilement à ce Dieu, quand il y a d'autres qui peuvent également réclamer notre temps et notre amour. Donc, imaginons maintenant que vous devez réussir un concours professionnel pour avancer dans votre carrière. Et on vous dit que le concours sera uniquement dédié à une seule matière. Mais au jour du concours, après avoir bossé à fond pendant plusieurs semaines, je sais que pour certains c'est le cas, ils ont dû faire cela, vous découvrez à ce moment-là qu'il y a plusieurs matières qui seront au menu pendant ce concours. Vous êtes à juste titre un peu dégoûté, car tout d'un coup, votre investissement exclusif dans un domaine n'a plus de sens. Est-ce que vous voyez? Ce n'est que parce que l'Éternel est un, le seul unique Dieu, que le reste, au verset 5, a du sens. Jésus cite le verset 5 en appelant ce qui est dit ici le plus grand commandement. Ce commandement d'aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, s'impose car il n'y a qu'un seul Dieu. C'est là où il faut commencer, chers amis. Si vous venez d'arriver chez nous et vous vous demandez un peu de quoi ils croient, tous ces chrétiens, nous croyons que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Comprendre et croire cela, alors oui, cela a pour conséquence que ce Dieu a droit à notre allégeance totale. Notre cœur, il nous le demande. Lorsqu'on écrit « cœur » dans l'Ancien Testament, souvent nous pensons à nos émotions. Mais le cœur dans l'Ancien Testament représente tout notre être, ce que nous sommes. C'est-à-dire notre pensée, on dirait aujourd'hui, notre esprit. Et nous devons tout donner de nous-mêmes à ce Dieu qui est le seul. Alors le verbe ici au verset 5, c'est quoi? C'est aimer. Aimer, c'est pour que vous soyez plus confortable avec adorer et non pas aimer. Quand adorer implique que nous pouvons faire ça ponctuellement. 2 heures le dimanche matin, je peux venir adorer. Mais en dehors de ça, Dieu me laisse tranquille. C'est pas que vous préférez respecter. Car cela implique que je dois avoir un regard pour lui. Mais je ne dois pas tout centrer autour de lui. Mais aimer, ça gêne un peu plus. Car cela implique que je dois positivement chercher à lui plaire dans tout ce que je fais, de bon cœur. De ne pas aimer Dieu ainsi, c'est de diminuer qui est Dieu. Car c'est de réserver une place plus grande pour quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas l'Éternel. Mais s'il n'y a qu'un seul Dieu, alors je dois cesser de croire que mon bonheur et la direction de ma vie doit se trouver ailleurs qu'en lui. Aimer l'Éternel plus que j'aime quelqu'un d'autre qui m'est cher, un tel ou une telle? Oui, parce que d'où vient la capacité d'aimer un tel ou une telle? D'où viennent les choses que vous appréciez chez un tel ou une telle? Aimer Dieu plus que mon travail, plus que la musique, plus que le bricolage, plus que mon écran? Oui, car d'où vient mon appréciation de la musique? Notre capacité de travailler, mon sens esthétique, ma joie de construire avec mes mains, de créer des applications intéressantes sur mon écran. Ils viennent de Dieu. Aimer Dieu avant toute autre chose, avant toute autre personne. Aimons-le du plus profond de notre être. Alors, à ce stade, on peut se demander, si on arrivait de la planète Mars, sans avoir lu la Bible, ou simplement peut-être si on venait de Woluwe-Saint-Lambert, sans avoir lu la Bible, qui est-ce l'Éternel qui réclame notre allégeance totale? C'est qui? Alors, deuxième point. Dans ce chapitre, l'Éternel est le Dieu qui délivre. À partir du verset 10, la deuxième moitié donc, de ce chapitre, ça sert comme un rappel de ne pas oublier qui est l'Éternel. Vous voyez ça au verset 10, n'est-ce pas? « Quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées, et lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel. » Car c'est ça ce que fait le confort, n'est-ce pas? Au lieu d'être dans une situation de crise, de difficulté, comme était le peuple de Dieu en Égypte avant d'entrer dans la terre promise, totalement à ce moment-là dépendant de leur Dieu, une fois qu'ils entrent dans le pays, ils vont trouver, nous disent ces versets, un confort. Ils vont trouver de belles villes, des belles maisons remplies de belles choses, avec de l'eau fraîche, avec du bon vin, avec de l'huile d'olive, de rêve. Et avec tout ce confort, le besoin de faire appel à la Dieu, l'Éternel, risque de diminuer. Il risque de penser de ne plus avoir besoin de lui. Et du coup, il risque de l'oublier. Ça aussi, c'est un danger, tout comme le danger de se détourner vers les dieux avec des minuscules, des pays avoisinants d'Israël, par un désir de vouloir s'adapter à la tradition, à la pensée, à la culture, à la religion des autres qui les entourent, de suivre la majorité. On voit ça au verset 14 aussi. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Donc il y a les deux dangers, d'aller vers les autres dieux et d'oublier l'Éternel. Et ces deux dangers restent d'actualité encore pour nous les croyants, chers amis, n'est-ce pas? J'espère que vous en êtes conscients. J'oublie le nombre de fois où je lis une lettre de nouvelle de la part d'un jeune chrétien occidental qui a dû ou qui partait en mission pour quelques semaines, quelques mois en Afrique, qui est frappé par la pauvreté et par la souffrance dans le pays qu'il visite, et qui dit néanmoins dans sa lettre d'avoir été fort frappé par le fait que malgré la difficulté, malgré la souffrance, à quel point les chrétiens de cette région-là avaient une foi forte et profonde. Comme quoi, le présupposé, c'est que la difficulté, la souffrance, devrait remettre en question la bonté de Dieu. Tandis que la surprise de nos frères et sœurs africains qui vivent ici en Europe, c'est de voir plutôt l'inverse. Un confort presque inimaginable ici en Europe, mais très très peu de foi. Vivre dans le confort, voyez-vous, nous expose à ce danger terrible de se croire autonome, de ne plus avoir besoin de l'Éternel. Rappelons-nous que Jésus avertissait ses disciples de ce danger. Il racontait une parabole d'un semeur qui semait, et la troisième semence tombe parmi les épines. Et ça représente, d'après ce que Jésus dit, Matthieu 13, Marc chapitre 4, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le danger du confort pour nous reste un danger réel. Tout comme le danger de vouloir nous adapter à la majorité autour de nous, d'adorer les mêmes dieux que mes collègues ou que d'autres membres de ma famille. Nous sommes exposés aussi à ce danger-là. Alors que faire? Il faut se souvenir de qui il est. Verset 12, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oui, l'Éternel les a délivrés d'Égypte. Comment a-t-il fait? D'après le verset 21, par des signes et des prodiges grands et désastreux. L'Éternel, donc, n'est pas une création de l'homme. Non, c'est le seul, unique Dieu qui s'est manifesté dans l'histoire pour délivrer son peuple de leur esclavage. Il a agi dans leur faveur. Et Israël ne doit pas oublier cela. De même, le chrétien, nous ici présents, nous ne devons jamais oublier que l'Éternel est le Dieu qui délivre, qui nous délivre de notre esclavage, de notre péché, d'une punition éternelle si nous nous trouvons en dehors de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il nous délivre de ce péché, de cet esclavage-là? Par l'œuvre magistrale de Jésus-Christ à la croix. Oui, il a fait de prodiges grands et désastreux dans la mort et la résurrection de Christ. Le Dieu qui est là, l'Éternel, c'est le Dieu qui a agi en notre faveur définitivement. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Si ça ne vous dit rien, vous devez commencer avec l'œuvre de Jésus-Christ. Et si nous commençons à oublier l'Éternel, mais nous devons nous rappeler de Jésus-Christ, lui qui nous a arrachés des ténèbres à son admirable lumière, nous dit le Nouveau Testament. Garde-toi d'oublier l'Éternel, de ne pas adopter une attitude blasée vis-à-vis de lui. Voici donc les deux exhortations majeures de ce matin. Mais maintenant, comme vous voyez sur le feuillet, j'aimerais juste prendre un peu de temps, si possible, à voir en pratique comment appliquer ces deux exhortations de manière concrète. Donc voici la première application, quelque chose qu'on a déjà vu dans le livre de Deutéronome. Obéissez à l'Éternel, c'est l'expression de notre amour pour lui. C'est difficile de ne pas observer cela dans ce texte, chers amis. Verset 1, « Voici le commandement, les prescriptions, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. » Versets 16 et 17, « Au lieu de tenter l'Éternel, comme Israël a fait à Massa, en rouspétant et en murmurant, vous pouvez trouver cet épisode dans Exode 17. Que doivent-ils faire? Vous observerez bien les commandements de l'Éternel, votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. Vous voyez, mettre en pratique ce que le Seigneur dit, c'est l'expression de l'amour que le peuple de Dieu a pour l'Éternel. Car s'approcher du Seigneur, c'est s'approcher du Seigneur, le seul, unique Dieu qui est Seigneur, qui règne. C'est de reconnaître qu'il est Seigneur. Et de dire, je m'approche de toi, Seigneur, hein, mais j'ignore ce que toi, en tant que Seigneur, tu me dis, c'est du non-sens. S'approcher du Seigneur, ça se traduit en repentance et en foi. Cette obéissance est nécessaire dans ce texte, nous l'avons lu, pour la jouissance d'Israël dans la terre promise. Ultimement, si nous continuons la lecture de Deutéronome et l'Ancien Testament, ce serait la désobéissance habituelle qui fera en sorte qu'ils sont chassés de cette terre promise. Au lieu de rendre un culte à Dieu seul, selon le verset 13, ils l'ont rendu à d'autres dieux. Au lieu, verset 16, de ne pas tenter l'Éternel, ils le feront à maintes reprises dans leur histoire. Quel sera le résultat, verset 15? La colère de l'Éternel s'enflammait contre ceux. Il les a fait disparaître de la terre. En fait, il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il prenne sur ses propres lèvres les mots du verset 13 et du verset 16, lorsqu'il est tenté par Satan dans le désert, pour qu'il y ait une obéissance parfaite à la loi et au commandement de Dieu. C'est grâce à ce que Jésus, lui, a fait, son obéissance à lui en tant que fils de Dieu par excellence, le vrai Israël, que les bénédictions de l'Éternel puissent, merci Seigneur, découler sur tous ceux qui prennent refuge en lui. Jésus, par son sacrifice, inaugurait la nouvelle alliance, une alliance qui permet que cette loi de Dieu soit inscrite dans le cœur de son peuple, dont l'obéissance reste à l'ordre du jour pour le croyant en Christ, non pas pour mériter le salut de la part de notre Dieu, mais pour refléter notre amour pour l'Éternel. Une obéissance rendue possible par l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Rappelons-nous ce que Jésus disait par rapport à notre amour pour lui. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Notre obéissance reste une expression importante de notre amour pour lui. Donc, obéissez à l'Éternel. Deuxièmement, chérissez la parole de l'Éternel. C'est nécessaire afin d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Cette deuxième application va de pair avec la première. Afin d'obéir à Dieu, il faut connaître ce qu'il veut de nous. Ce n'est que la parole de Dieu qui révèle la volonté de Dieu. Verset 6, « Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Comment? Verset 8, tu les lieras comme un signe sur ta main. Elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, peut-être vous le savez, mais certains juifs prenaient et prennent encore cette instruction ici à la lettre. Ils ont des phylactères. Je pense qu'on a une image qu'on peut projeter de cela, Kenneth. Des petites boîtes en cuir qui s'attachent à leurs cheveux ou à leur front pour porter sur le front à la parole de Dieu. Ils le mettent aussi sur le bras, fixé à l'aide de bandelettes en cuir. Ils ont également ce qu'on appelle des mezouzas fixés sur le menton de leur porte d'entrée. Et ces objets contiennent les textes sur des bandes de parchemin, y compris le texte du Deutéronome 6, verset 4, le schéma. On voit difficilement ici, mais il y a des petites boîtes ici, et là, sur le front, où il y a le texte de l'Ancien Testament compris dedans. Merci, on peut revenir vers le texte. Mais je ne pense pas que c'est ça ce que ces versets visent, bien entendu. Non, ces versets visent une diversité de moyens employés pour que la parole de Dieu soit proche de notre cœur, pénètre notre cœur, influence, dicte la vie du croyant, qu'on saisisse toute occasion pour connaître sa parole. Jésus disait à ses disciples, n'est-ce pas, d'enseigner d'autres à garder tout ce que je vous ai prescrit. Il faut donc saisir différents moyens pour que la parole soit proche de notre cœur. Que cela soit au niveau individuel, il parle de faire ça devant tes yeux. Que ce soit au niveau familial, il parle de mettre la parole sur les poteaux de ta maison. Ou que ce soit au niveau de la communauté, il parle de mettre cette parole sur les portes de la ville. Alors pour nous, c'est la communauté, c'est notre église. Que faisons-nous dans la famille, moi individuellement, dans l'église, pour que la parole de Dieu entre dans mon cœur, pénètre mon cœur? J'espère que vous lisez, chers amis, la parole, personnellement et en famille. J'espère que nous lisons la parole à l'église. Force est de constater que la simple lecture de la parole de Dieu est souvent négligée au sein d'une église. Oui, c'est vrai que parfois la lecture personnelle et familiale peut devenir comme une corvée ou un légalisme. Je coche, oui, j'ai lu, maintenant je continue, je fais d'autres choses avec ma vie. Ça, c'est vrai, c'est un danger, mais c'est peu probable d'être notre danger à nous. Notre danger, c'est de négliger tout simplement la parole de Dieu dans notre propre vie, sans une lecture régulière, quotidienne de la parole de Dieu. Il n'y a pas de croissance dans la vie chrétienne. Et donc, prendre l'habitude de consacrer quelques minutes et méditer la Bible, c'est une bonne habitude, nécessaire. Profitez alors, chers amis, des différents moyens qu'il y a aujourd'hui pour chérir la parole de Dieu. On peut prendre le smartphone et en profiter de cela. Au lieu de toujours juste rester ancré dans mes vieilles habitudes et être un peu difficile par rapport à des nouveautés, je pense ici nous sommes exhortés à saisir tout moyen possible pour que la parole de Dieu entre dans notre cœur. Donc deuxième chose, chérissez la parole de l'Éternel. Troisième, très brièvement, gardez la crainte de l'Éternel. Ça, c'est aimer Dieu, oui, mais c'est aussi craindre Dieu. Les deux vont ensemble dans la Bible. Non pas soit c'est un Dieu d'amour, soit c'est un Dieu à craindre. Non, c'est un Dieu à aimer et à craindre. Craindre dans le sens d'un profond respect pour ce Dieu, l'Éternel, qui se révèle à nous, en sachant qu'il est juste, en sachant qu'il est bon, en sachant que le péché ne convient pas à son peuple. On ne prendra pas ce Dieu-là à la légère. Sans cela, on ne pèsera pas à quel point c'est une offense pour nous de partager notre amour pour Dieu avec d'autres choses, d'autres personnes. Mais quatrièmement et dernièrement, et là on termine, c'est de transmettre aussi l'évangile, la parole, à la génération suivante. Cela, ça revient à deux, trois reprises ici dans ce texte de Deutéronome 6. J'espère que vous l'avez remarqué. C'est essentiel, cela, pour une foi authentique de la part de cette génération suivante. Prenons à cœur les recommandations dans ce domaine. C'est donc important pour nos propres enfants, si nous sommes parents, mais également pour les jeunes dans notre Église. Si nous voulons que cette génération nous succède, c'est nécessaire qu'eux deviennent authentiquement aussi membres du peuple de Dieu. Alors, trois choses ici. Ce que cette génération, les jeunes, ce qu'elle voit. Quand les recommandations aux enfants ici tombent dans une section qui s'adresse aussi bien à vous qu'à vos enfants, verset 2, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements. Verset 6, les paroles doivent se trouver dans ton cœur pour pouvoir, verset 7, inculquer ces paroles à tes fils. Vous savez, une des choses faciles à apprendre en tant que parent, c'est que vos enfants, nos enfants nous voient. Et ils pèsent qu'on leur dit à la lumière de ce qu'ils voient. Nous avons beau à dire, oui, tout à fait, l'Église est importante. Mais si cela n'est pas accompagné par un engagement personnel, régulier, sacrificiel au sein d'une Église, alors les enfants vont conclure que non, l'Église n'est pas aussi importante que cela. Les enfants et les jeunes ne sont pas impressionnés par nos exhortations de suivre l'Éternel s'ils voient un engagement à moitié de notre part. C'est basique, chers amis, mais c'est nécessaire de se rappeler de ça. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'elle entend, cette génération, jeune génération? Parce que le modèle n'est pas suffisant en soi, non, il faut qu'ils entendent la parole. Verset 7, les paroles doivent être inculquées à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Si nos enfants ne nous entendent jamais parler de ces choses en dehors de ces moments formels, que vont-ils conclure au sujet de la foi? Ils vont déduire que la foi chrétienne s'est réservée à 2 heures religieuses du dimanche matin. Et en dehors de ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas que l'enseignement, donc, doit être toujours formel. À la maison non plus. On ne doit pas toujours être assis autour d'une table ou à genoux devant un lit avec nos enfants, formellement. Non, c'est aussi ici un engagement informel. À tout moment, de profiter de ce qui se passe en famille pour pouvoir aider les enfants à réfléchir quant à la parole de Dieu. Vous savez, cela oblige qu'il y ait des moments où nous sommes avec nos enfants informellement pour leur en parler. Cela ne vient jamais si on ne fait pas un effort pour qu'il y ait du temps. Ces moments informels ne viendront jamais si on sait juste, ok, on a 5 minutes, on doit parler maintenant du Seigneur. Vous êtes prêts? On parle. Les enfants vont dire, ouh! Non, c'est le fait de consacrer du temps qui permet informellement qu'il y ait des possibilités auprès de nos enfants. Que disons-nous à nos enfants lors de ces occasions informelles, pour avoir ces occasions informelles autour de la table, d'abord, il faut éteindre l'écran pour pouvoir en discuter de certaines choses ensemble. J'espère que vous ne mangez pas en famille avec la télé allumée. J'espère que vous dites à vos enfants non, lorsqu'on mange, on met les écrans à part. Parce que sinon, on ne parle jamais. Et si on ne parle jamais, on n'a pas moyen d'encourager nos enfants informellement dans la foi. C'est important, les amis, de résister cette tentation de penser que ce n'est pas grave pour les enfants. Ils vont formuler les idées par d'autres moyens s'ils ne nous parlent jamais. Nous avons l'obligation de les aider à grandir en la parlant. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, vous dites? C'est juste une liste des choses à faire, une liste des choses à ne pas faire. Soyez des bons chrétiens, obéissez, et c'est bon? Non! Quelle est la réponse donnée au verset 21? Tu diras à ton fils, quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. Mais comment est-ce que les chrétiens disent cela? Parce que ça, ce n'est pas le cas pour nous. Alors nous reprenons le langage d'un Pierre et nous annonçons les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous annonçons à nos enfants, à la génération suivante au sein de cette Église, l'évangile de Jésus-Christ, ce que Dieu a fait. Est-ce que nos enfants et notre jeune génération connaissent cette belle histoire du salut en Christ, d'un Dieu qui est fidèle à ses promesses, puissant pour sauver, compatissant envers des pécheurs, qui se sacrifie pour nous, qui vaincre ses ennemis? C'est cette histoire-là que nous devons raconter à nos enfants. Et nous devons saisir, et on termine là où on avait commencé, l'occasion que présentent des questions, ce qu'elles demandent. Parce que c'est présupposé ici que les enfants qui voient tout ça en nous vont nous poser des questions. Alors il n'y a rien de mieux que de se servir de leurs questions pour les aider eux aussi à grandir dans la connaissance de l'Éternel, le seul, unique Dieu. L'Éternel qui demande que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. On prie ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole à nous ce matin. Merci pour qui tu es et pour ce que nous découvrons à ton sujet. Merci que tu es le seul Dieu. Tu es le seul Seigneur. Et merci qu'en Jésus-Christ, tu es celui qui nous délivre. Garde-nous d'oublier qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Donne-nous, Seigneur, à vivre selon tes voies, à chérir ta parole et à transmettre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui nous succèdent, que ce soit dans l'Église, auprès des ados, auprès des jeunes adultes, auprès des enfants, que ce soit dans la famille. Nous savons que pour beaucoup d'entre nous, cela présente un défi. Et nous te demandons en tant qu'Église que nous soyons ceux qui aident les uns les autres à grandir dans ce domaine. Pour que parmi nous, ton nom soit glorifié. Nous te prions cela au nom précieux de Jésus. Amen.